Alors, tournez avec moi, s'il vous plaît, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5. Matthieu 5, verset 19. Matthieu 5, 19. Et avant de lire le passage, je voulais simplement exhorter l'Assemblée, encourager l'Église. Les cours bibliques ont commencé. Ils ont commencé cette semaine. Les cours sont à 9 heures. Je vous encourage fortement, fortement, à saisir ce qu'on place devant vous pour le bien de votre âme, de celle de votre famille, pour votre couple, pour vos enfants. C'est un moment béni que de se rassembler le dimanche matin. Ce n'est pas un devoir religieux qu'on accomplit. Si vous venez ici par devoir, j'ai quasiment le goût de vous dire, restez chez vous la semaine prochaine. Mais on le fait pour adorer Dieu. On le fait pour adorer le Seigneur parce que Christ nous a touchés, parce qu'on l'aime et parce qu'il n'y a nulle part ailleurs où on voudrait être ce matin. Ici, en train d'adorer Dieu et de recevoir sa parole. Alors, je veux vous encourager très fortement à considérer les cours qui vous sont offerts, l'école de prière qu'il y a pour les hommes et pour les femmes, à prendre les bonnes décisions en commençant cette année pour le bien de votre âme. Ça commence à 9 heures, les cours bibliques, puis la louange, la prédication à 10h15. Je demande aussi à l'Assemblée de faire un effort, s'il vous plaît, pour respecter cet horaire-là, qu'on puisse ensemble célébrer et dire à notre Dieu déjà, par notre ponctualité, qu'il est précieux à nos yeux. C'est bon? C'était mon sermon ce matin. Matthieu 6, verset 19. 6, je m'excuse. J'ai dit 5, hein? Désolé. Vous écoutez. Je vais savoir dimanche prochain à 9h. Si vous écoutez. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil et la lampe du corps, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous demain, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Père éternel, nous sommes assemblés pour pencher les regards sur ta parole ce matin, pour laisser ta parole parler à nos cœurs, pour laisser ta parole aussi donner une direction à cette année qui commence, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos pensées. Père, je veux te demander de venir parler puissamment, c'est ta parole, c'est ton esprit qui nous a été donné, Seigneur, et pour ma part, je vais m'appliquer de tout mon cœur, Seigneur, à l'exposer avec droiture. Mais j'ai besoin, Seigneur, j'ai tellement, tellement, tellement besoin, Seigneur, que tu viennes l'appliquer à nos cœurs par ton Esprit Saint, afin que nous soyons heureux en toi cette année, Seigneur. Afin que nous soyons heureux en toi cette année, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Alors, l'année commence, l'année 2011 commence. J'avais quelques sujets que j'avais à cœur d'aborder avec l'Assemblée, d'aborder avec vous en ce début d'année. La semaine dernière, j'ai abordé un premier sujet avec une drôle d'expression. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent c'était quoi l'expression? Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, c'était quoi? In curvatus in se. Faites juste le répéter avec nous. In curvatus in se. Gérard, tu ne l'as pas répété. In curvatus in se. J'espère que tu m'écoutes, Gérard. In curvatus in se. Vous savez pas ce que vous avez dit. C'est pas une malédiction que vous avez prononcée. Vous n'avez pas fait aucune invocation étrange. Il n'y a pas rien qui s'est passé. Sinon qu'on a déclaré quelque chose d'important. Alors, j'espère qu'on a piqué un peu votre curiosité. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous prendrez le temps d'aller l'écouter. Mais je vous donne déjà une piste. Cette semaine, vous pouvez méditer sur Romains 6, 11. Romains 6, 11. Et c'est ma prière, c'est ma vision pour nous cette année, pour l'Assemblée, pour l'Église de l'Espoir. Alors ça, c'était la semaine dernière. Cette semaine, j'ai un second sujet, puis dans deux semaines, puisque la semaine prochaine, on a la joie d'avoir des baptêmes, je vais continuer seulement dans deux semaines, on va voir un dernier sujet comme début d'année. Le titre de la prédication de ce matin, si on peut revenir en arrière, si vous me connaissez pas, vous allez découvrir assez vite que j'aime l'ironie, d'accord? Le titre de la prédication de ce matin fait allusion, comme plusieurs l'ont deviné, à une trilogie de G.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Il s'agit de l'expression favorite d'un personnage assez lugubre. Et puis, on va entendre sa voix juste dans un instant. Écoutez bien.
Ça sournois petit hobbit, ils l'ont volé, mon précieux.
Merci, Gollum, ou Ellie. Mon précieux. C'est sûr que c'était pas une maison que Gollum avait, c'était plutôt un anneau. Ce matin, je veux pas être moralisateur. Ça produit des gens religieux. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde d'être strictement moralisateur dans cette Église. Mais en même temps, le sujet que je veux aborder avec vous, je l'ai à cœur parce que j'ai à cœur votre joie et ma joie en 2011. Je l'ai à cœur parce que j'ai à cœur votre éternité et mon éternité. Alors, non seulement 2011, mais l'éternité. L'année va passer très, très vite. Demain, on va se retrouver et on va être le 9 janvier 2012. Après-demain, on va être en 2021. Vous allez voir, ça va aller très, très vite. Et ce que j'ai à cœur, c'est que nous puissions regarder en arrière ensemble en disant, ça a été une bonne année dans le Seigneur. Ça a été une bonne année dans le Seigneur. Et je pense qu'un passage comme ce passage dans Matthieu 6, versets 19 à 21, c'est un passage déterminant pour commencer l'année. C'est déterminant pour notre joie, c'est déterminant pour notre paix, c'est déterminant pour notre joie éternelle. Matthieu 6 parle de s'amasser un trésor. Et parfois, on a une vision de la foi, de la religion, du christianisme comme une vision très, très épurée. Hein? C'est le don de soi, on doit se sacrifier, on doit donner. Le message de Jésus ici, c'est le contraire, c'est amasser. Si vous avez bien écouté le passage que je viens de lire, Jésus est en train de vous exhorter à vous amasser un précieux trésor. Simplement, Jésus apporte un peu de sagesse. Il se présente comme un courtier en placement. un courtier en placement durable. Pas le genre d'affaires qui peuvent te voler ta joie comme ça s'est passé il y a quelques années quand tu te réveilles un matin, tu regardes ton fonds de pension antérieur et tu dis « Je viens de perdre cette semaine 10 000 $ ». Alors Jésus veut qu'on accumule un trésor. Il se présente comme un conseiller en placement et il vous encourage à vous amasser un trésor en 2011. La question est surtout de savoir qu'est-ce qui est sage comme placement? Qu'est-ce que je devrais faire comme placement? Ce n'est pas de savoir s'il est bon ou non de s'accumuler un précieux trésor. C'est bon de le faire. Mais Jésus ramène toute cette question à un principe de sagesse. Honnêtement, de gros bon sens. Et ceux d'entre nous qui ont vécu quelques années de plus que les autres, les petites jeunesses de 60-65 ans, vous savez que ce que Jésus est en train de dire ici, c'est rempli de gros bon sens. Parce que demain matin, on va se réveiller, on va être le 9 janvier 2012. Et après-demain, on va être en 2021. Parce que ça passe vite. Parce que ça passe très, très vite. Alors, il y a l'éphémère et il y a l'éternel. Il y a ce qui peut s'envoler dans un crash de la bourse et ce qui durera pour l'éternité. Je ne pense pas que Jésus est en train d'insinuer dans ce passage-ci que le matériel et tout ce que l'argent peut nous acquérir est quelque chose de fondamentalement mauvais. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire, pas du tout. Au contraire, c'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a créé le monde et tout ce qu'il contient. 1 Timothée 6, 5 à 10, je vous lis le passage. Voici ce que Paul dit dans 1 Timothée 6, les versets 5 à 10. « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent est une racine de bien des maux. Pas l'argent. Pas les biens matériels, c'est Dieu qui a créé la matière, c'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui a créé ultimement tout ce que je peux acquérir. On est juste des transformateurs, nous, c'est tout ce qu'on fait. Mais tout ce que nous pouvons posséder, en définitive, nous vient de Dieu. Mais l'amour de l'argent, les motifs, les désirs, Jésus ne nous interdit pas de posséder, d'avoir de l'argent. Il mentionne l'importance que nous accordons aux choses que nous pouvons accumuler sur la terre. Dans l'Ancien Testament, l'Ecclésiaste avait compris ces choses-là. Si vous n'avez jamais lu le livre de l'Ecclésiaste, dans l'Ancien Testament, c'est un bon sujet de méditation cette semaine. Retournez lire le livre de l'Ecclésiaste à la lumière de Matthieu 6, 19 à 21. Je pense que l'Ecclésiaste avait saisi cela. C'était un homme d'une grande sagesse. Et après beaucoup de réflexions, bien des années, je crois, à errer, l'Ecclésiaste en vient à dire que les édifices que nous construisons, le travail fait avec beaucoup de rigueur, la sexualité et tout le plaisir qu'on peut trouver, la bonne réputation qu'on peut se bâtir, la puissance que l'on peut acquérir et toutes les philosophies qu'on pourrait étudier, toute la connaissance qu'on pourrait acquérir, il en vient à la conclusion, il en vient à conclure que toutes ces choses sont vanité. L'expression de l'Ecclésiaste est vanité des vanités, tout est vanité. Et encore une fois, je ne pense pas qu'il est en train de dire que tout ce qu'on pourrait acquérir, tout ce qu'on peut avoir sur la terre, c'est stupide, c'est mal et c'est mauvais. Ce n'est pas ça le message de l'Ecclésiaste. Au contraire. Au contraire, il dit, tu as fait une bonne paye cette semaine, invite des amis, faites une bonne bouffe. C'est pas mauvais. Profites-en. Tu viens de te marier, mon homme. C'est le temps de profiter de la femme de ta jeunesse. De partir ensemble en amoureux. Alors voyez-vous, il n'est pas en train de dire que ces choses sont mauvaises. Mais il fait une observation. Il fait une observation. L'Ecclésiaste dit toutes ces choses sont placées sous une malédiction. la malédiction d'être temporaire. Tous ces biens, tous ces plaisirs, toutes ces choses que l'on peut acquérir sont transitoires. Et par conséquent, nous devrions en jouir et en profiter en tenant toujours en compte qu'un jour, nous nous présenterons tous devant Dieu. Pour reprendre l'expression de Don Carson, quand ça fera 100 000 ans que nous serons ensemble dans l'éternité, comprenez? Ça ne marche pas, 100 000 ans à l'éternité. Quand ça fera 100 000 ans qu'on sera ensemble dans l'éternité, la promotion pour laquelle je me serais battu comme un fou pendant l'année 2011, savez-vous quoi? Ça va vraiment avoir de l'air insignifiant. Puis vous comprenez qu'après 200 000 ans d'éternité ensemble, à se réjouir dans la présence de Dieu, ma voiture de l'année 2011, elle va être passée date. L'Ecclésiaste dit, c'est bon. Va l'acheter, profite-en. Mets les choses dans la balance du temps. Mets les choses dans la balance de l'importance véritable qu'elles ont. Parce qu'un jour, après cette course brève, cette vapeur que tu es dans ton passage sur terre, tu te présenteras devant Dieu. Et lui te demandera des comptes. Lui te demandera des comptes. Alors, je pense que l'Ecclésiaste est en train de parler comme Jésus ici. Je pense que c'est le même Dieu qui a inspiré ces deux passages, ces deux idées, et qu'en définitive, ça revient à la même. Comme je disais à mes enfants hier soir, on est en train de méditer justement sur le passage. Je disais à Bastien et Jade, quand vous êtes nés, quand vous êtes sortis du ventre de maman, là, vous étiez nus comme des vers. Bastien a dit, ouais, mais j'avais un cordon. Oh, mais on m'a coupé. Fait que t'es arrivé puis t'avais rien. Et hier, nous étions à Sherbrooke pour un service funéraire dans la famille. Et j'ai vu un cercueil descendre en terre. Et comme le disait si bien Mme Martin, quand tu as 20 ans, tu te prends un appartement. Quand tu en as 25, tu t'achètes une maison. Quand tu as un peu plus d'argent, tu en achètes une plus grosse. Puis après ça, tu la rapetisses. Parce qu'éventuellement, tu t'en vas dans un condo. Puis dans un petit appartement. Généralement, tu finis dans une chambre, puis ta dernière maison sur terre, tu es un peu serré là-dedans. La vérité, c'est que tout ce que j'accumule sur la terre, contrairement à ce que les Égyptiens pensaient, vous savez que les pharaons égyptiens croyaient qu'ils pouvaient partir avec tout ça. Hein? Au moment de leur décès, tu sais, je veux dire, si moi j'avais été un pharaon, vous auriez tous immolé toute la gang, parce que j'ai besoin de mes serviteurs. Imaginons un instant que je suis un pharaon. J'ai besoin de toute la gang, tous mes serviteurs avec moi, mon palais, mes biens, mes richesses. Vous allez tous mourir en même temps que moi. Vous allez entrer avec moi dans ma pyramide et de l'autre côté, on va continuer le party. C'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas de paquebot pour envoyer ça de l'autre bord en termes de biens matériels. Ça ne fonctionne pas. Et pourtant, Jésus dit oui, c'est possible. Oui, c'est possible de faire un vrai bon placement. La question n'est pas, est-ce que je dois m'accumuler un trésor? Est-ce que je dois avoir un précieux? La question, c'est quel est le meilleur placement? Comment est-ce que je dois m'y prendre? On retourne ensemble dans Matthieu 19 et Jésus nous donne une piste. La première question, c'est de savoir où est-ce que je peux accumuler un trésor et où est-ce que je suis en train actuellement de l'accumuler. Matthieu 6, est-ce que j'ai dit d'autres choses? Matthieu 6, verset 21. La première question à savoir, c'est où est-ce que tu places actuellement? Tu t'en vas voir un courtier, la première chose qu'il va te demander, c'est est-ce que tu as déjà des placements? C'est quoi ton potentiel, puis où est-ce que tu es en train de t'investir? On va voir si déjà c'est bien géré. Bien, Jésus nous dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Alors, vous pouvez simplement répondre à des questions toutes simples. Qu'est-ce que vous désirez le plus ces jours-ci? Qu'est-ce que vous désirez le plus ces jours-ci? Pourquoi est-ce que vous consacrez le plus d'énergie dans votre emploi du temps ces jours-ci? Pour quel désir est-ce que vous dépensez le plus d'énergie mentale, de préoccupation, d'efforts, de planification? Quand votre pensée s'égare dans la journée, à quoi est-ce que vous rêvez? Et c'est probablement là que vous êtes en train d'accumuler un trésor actuellement. Et l'Esprit Saint qui vous assiste est là pour mettre ça en lumière devant vous, pour vous aider à déterminer où est-ce que vous êtes en train de vous accumuler un trésor. Parce que là où est votre cœur, c'est là que votre trésor va se trouver. Cette semaine, j'étais en train de parler avec un jeune retraité de 60 et quelques années, 60 et quelques mois. Et je l'écoutais parler et je savais, dans ses yeux, dans sa bouche et dans son cœur, je savais où est-ce qu'il est en train d'investir actuellement. Un bon placement. Un bon placement, je peux vous le dire. Parce que j'entendais tous ses désirs. J'entendais la passion sortir de son cœur. Et la semaine dernière, je prenais un temps avec un jeune homme qui me partageait combien lui et son épouse ont à cœur de s'investir, de servir Dieu. Je savais où est-ce qu'il était en train de s'investir actuellement. Deux étapes de vie différentes, deux réalités différentes. La maison est plus grosse, le condo est plus petit, l'appartement, les besoins changent. Le même cœur, le même investissement, la même passion. Où est-ce que tu es en train d'investir actuellement? Si tu n'es pas avec moi dans la prédication tout de suite là, à quoi tu penses? Probablement que ça te donne une bonne idée de savoir où est-ce que tu es en train de t'investir. Là où est ton trésor, là seront ton cœur. Jésus parle de désir. Il parle d'aspiration. Et vous savez quoi? Je suis conscient que tout l'argument de Jésus ici ne vaut absolument rien si vous ne croyez pas dans l'éternité de l'âme. S'il y a des gens qui m'écoutent parler ici ce matin, puis contrairement aux milliards de personnes sur la Terre qui croient que l'être humain est plus qu'un animal, mais qui croient comme moi profondément dans leur trip qu'on a une dimension éternelle, on a une âme, il y a quelque chose de plus grand en moi qu'en mon chien Sushi. Et ce n'est pas simplement la capacité d'analyser, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose qui a été créé à l'image de Dieu. Mais si vous ne croyez pas cela, ça n'a aucun bon sens ce que je suis en train de dire. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais si, comme moi, au plus profond de votre cœur, vous avez cette conviction profonde que l'être humain a une portée éternelle, qu'il a été créé pour davantage que 70 ans passés sur Terre, et qu'un jour nous allons nous présenter devant Dieu, c'est plein de sagesse que Jésus apporte ici. C'est plein de sagesse que Jésus apporte ici. Parce que les années passent à une vitesse incroyable. Et dans quelques instants, on va se reparler ensemble. Puis on va être en 2012. Comment fait-on pour s'amasser un trésor au ciel? De quel trésor s'agit-il? Tournez avec moi dans Matthieu 25. Matthieu 25. Verset 14, et je vais vous mêler un peu ce matin parce que je vais lire dans la version Semeur, d'accord? Je vais lire un long passage qui répond vraiment à ces questions. Comment fait-on pour s'amasser un trésor au ciel et de quel trésor s'agit-il? Matthieu 25, verset 14 jusqu'au verset 46. C'est Jésus qui parle et il dit, « Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots. J'en ai gagné 5 autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi. « Maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur. Je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. » Mais son maître lui répondit, « Vaut rien, fainéant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et d'amers regrets. » D'amers regrets. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en 2 groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ou étranger et t'avons-nous accueilli ou nu et t'avons-nous vêtu ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite? » Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela, au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. « Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai souffert de la faim et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison, et vous n'avez rien pris soin. Vous n'avez pas pris soin de moi. » Alors ils lui demanderont à leur tour, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu souffrant de la faim et de la soif? Quand avons-nous vu étranger, nu, malade ou en prison? Et avons-nous négligé de te rendre service? » Alors il leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela, au moindre de ceux que voici, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. » Nous sommes justifiés, déclarés justes devant Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ. Et ce n'est pas par nos œuvres que Dieu nous déclare juste. Mais celui qui a été justifié, celui qui a été pardonné, purifié de ses péchés, doit porter des fruits et faire des œuvres de justice. Il y a une mise en garde sévère ici qui va au-delà de mon exhortation première de ma prédication. Il y a une mise en garde extrêmement sévère que Jésus est en train d'adresser ici. Il l'a fait plus tôt déjà dans Matthieu en disant que ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans mon ciel, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Et la mise en garde que Jésus est en train de servir ici, c'est premièrement d'examiner nos vies et nos cœurs. Il ne suffit pas de me dire chrétien pour l'être. Il faut avoir reçu véritablement Jésus-Christ dans mon cœur. M'être humilié devant lui et dire, « Christ, sans toi, je suis destiné à l'enfer. Tu m'as racheté et aujourd'hui, je t'appartiens. Je suis ton serviteur. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur, parce que je veux marcher dans tes voies maintenant. Je veux marcher à ta ressemblance. » Vous savez, je suis pasteur dans une église évangélique. Nous enseignons le salut par grâce. Et j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité de vous prêcher toute la parole de Dieu. Et j'ai toujours, toujours, toujours cette prière, cette crainte dans mon cœur. Et je dis, Seigneur, ne permets pas que quelqu'un soit placé sous mon enseignement pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et que ce soit un religieux, un bigot qui vient dans une église en se rassurant, en se disant, moi, je suis un chrétien évangélique, baptiste, je suis sauvé. Non, et sauver celui qui place sa foi en Jésus-Christ, qui tombe à genoux au pied de la croix et qui dit, « Christ, prends-moi. Par moi-même, je ne peux rien faire, mais par toi, je peux tout faire. Fais ce que tu veux maintenant de ma vie. » Mais en même temps, dans ce passage, on a les réponses aux questions que j'ai posées tantôt. De quelle sorte de trésor est-il question? Quelle sorte de trésor est-ce que je peux m'accumuler lorsque, au ciel pour lorsque je vais me présenter devant Dieu? Il dit, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. » À ceux qui s'investissent et qui investissent dans un trésor au ciel, Dieu donnera un royaume. Qu'est-ce que c'est? J'en ai pas la moindre idée, mais si c'est parfois tellement agréable d'être ici sur la terre, de boire un bon vin, de prendre un bon mets, d'être avec mon épouse et mes enfants, avec des amis, j'ai hâte de voir le royaume qui m'attend de l'autre côté. Et comment fait-on pour s'accumuler ce trésor? C'est simple. C'est très, très simple. En considérant que tout ce que Dieu me donne, actuellement en 2011, mon temps, mon énergie, ma santé, mes dons, mes talents, mes capacités, mon argent, mes biens matériels, mes relations, toutes ces choses-là sont temporaires. Il est bon d'en profiter. Jouissez de ce que Dieu vous confie en 2011. Profitez-en, ça va passer vite. Mais voilà, gardez toujours à la tête, à l'esprit, que la bonne manière de jouir de ces choses, c'est de toutes les partager. De toutes les partager. Que ce soit votre temps, que ce soit votre argent, que ce soit vos dons, vos capacités, votre énergie, vos talents. Partagez-les avec les gens que Dieu va placer sur votre route cette année. Premièrement avec les frères, premièrement avec les sœurs qui sont dans le besoin. Quand Dieu présente un besoin devant vous, saisissez que Dieu vous permet de faire un meilleur investissement que simplement garder le tout pour vous. Dieu vous donne une opportunité de faire un meilleur placement. Et lorsque Dieu va placer devant vous des gens qui ne sont pas chrétiens, et qui sont dans le besoin, que ce soit d'un temps d'écoute, d'un conseil, d'un lift, d'un coup de main financier, d'un coup de pouce, une personne âgée sur la rue, n'importe quoi. Faites de bonnes œuvres afin que ceux qui vous côtoient reconnaissent que vous êtes un fils et une fille de votre Père qui est dans les cieux et qui bénit et qui partage ses bénédictions. En 2011, décidez de partager tout ce que Dieu vous a donné. Ça va être un bon placement. Et vous savez quoi? Dans quelques jours, lorsqu'on va se retrouver le 31 décembre, on va regarder en arrière, puis on va dire, l'année 2011, c'était vraiment une bonne année. J'ai fait des bons placements. Ça va profiter éternellement. Et votre cœur va être dans la paix et dans la joie. Votre cœur va être dans la paix et dans la joie de savoir que vous êtes investi dans l'éternité. On va prier ensemble. Père, je veux te demander maintenant, par ton Esprit Saint, de venir appliquer ta parole à chacune de nos vies. Seigneur, l'année commence. Viens appliquer par ton Esprit à chacune de nos vies. Comment est-ce que tu veux qu'on serve ton nom? Comment est-ce que tu veux qu'on donne, qu'on aide, qu'on habille, qu'on pourvoie, qu'on conseille, qu'on assiste, qu'on partage? Qu'on partage, Seigneur, tout ce que tu nous donnes actuellement, en énergie, en temps, en cœur, en talent, en don, en argent, en biens matériels. Seigneur, viens appliquer, je t'en prie, par ton Esprit Saint à chacun de nos cœurs, afin que nous voyons cette année devant nous comme une année d'investissement, Seigneur. Et Père, si quelques-uns d'entre nous sont esclaves, prisonniers, parce qu'ils servent mammon, ils servent l'argent, Seigneur. Oh, ils t'aiment, Seigneur. Jamais ils ne diraient qu'ils t'haïssent. Mais s'ils ont à choisir entre toi et l'argent, le choix est souvent très difficile, Seigneur. Je te prie dans ta grâce de venir les sortir de ce piège. Donne-leur, Seigneur, de s'humilier profondément au pied de la croix. De venir avec un cœur brisé. Heureux celui qui pleure sur son péché. Viens les sortir, Seigneur, de ce filet qui tue l'âme, qui tue la joie et qui nous prépare si mal à l'éternité. Merci, Seigneur, pour ta parole. Elle est pure, elle est belle, elle est bonne, Seigneur. Je la savoure, Seigneur. Elle est salutaire pour mon âme, celle de ma famille, celle de mes enfants, celle de mon épouse. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Alors. Madame Nicole Pichet, voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Monsieur Mathieu Gouin. Madame Julie Ranoux. Robert Light, Carole Light et Philippe Leduc. J'aimerais qu'on puisse saluer ces personnes qui se joignent officiellement à l'Église de l'Espoir. Maintenant, vous ne le saviez pas, mais je vais vous demander de faire quelque chose, les nouveaux membres. Je vous demande de venir avec moi à la porte après pour que les frères et sœurs puissent simplement vous serrer la main, vous souhaiter la bienvenue, que Dieu puisse vous bénir. Alors, vous viendrez me rejoindre tout de suite après le chant. Merci.
Je vous invite à vous lever.